gloire à Dieu. C'est notre dernière soirée dans le cadre de notre séminaire relatif à l'ADN du véritable chrétien. Depuis la première soirée jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier en tout cas, nous avons vu le Seigneur à l'œuvre. Dieu nous en parlait d'une manière ou d'une autre. Et nous voulons encore lui demander aujourd'hui de nous parler, lui demander encore de nous combler de ses grâces et de ses bénédictions. Nous voulons encore nous tourner vers lui et nous attendre à lui, qu'il puisse nous visiter, qu'il puisse répandre sa grâce d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes. Et je voudrais que chacun puisse parler simplement au Seigneur. Après lui avoir exprimé nos sentiments par nos chants, par nos cantiques, le moment arrive où nous voulons maintenant nous taire afin que lui nous parle. Mais pour cela, nous devons nous préparer. Pour cela, nous devons nous concentrer. Pour cela, nous devons avoir une attention soutenue et tournée vers lui et lui seul. Alléluia. Que chacun parle au Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Maître. Merveilleux Sauveur. Le Dieu qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Le Dieu qui éprouve du plaisir à nous faire du bien, à nous combler de sa bonté. Seigneur, ce soir, c'est avec beaucoup de reconnaissance que nous nous rassemblons à l'occasion de cette dernière soirée de notre séminaire. Ce soir, ô Dieu, comme du reste les deux autres soirées, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance pour ta présence au milieu de nous, pour l'enseignement de ta parole. Te remercier pour ce que tu as fait parmi nous, Seigneur, et dans chacun de nous, depuis le premier jour de notre séminaire. Te remercier de ce qu'aujourd'hui, tu vas encore agir, Seigneur, tu vas répandre ta grâce sur chacun de nous. Ce soir, tu vas nous faire du bien. Ce soir, tu vas nous donner, Seigneur, une fois de plus, la révélation de ta parole. Aide-nous, ô Dieu, à être dans cet esprit d'expectative par rapport à toi. Aide-nous, ô Dieu, à rester ouvert à l'action de ton esprit. Seigneur, alors que ta parole sera prêchée, alors que ta parole sera annoncée, donne-nous, Seigneur, la foi indispensable, la foi nécessaire, cette capacité qui ne vient que de toi, capacité dont nous avons besoin, pour pouvoir, Seigneur, saisir ce qui vient de toi et, Seigneur, et mettre cela en pratique dans nos vies, afin que nos vies soient bénies. Merci pour tout, pour avoir pourvu, Seigneur, au transport. Merci de nous avoir gardés tout au long de la journée. Seigneur, nous voulons croire qu'avec toi, il n'y a pas de hasard. Je voudrais te rendre grâce, Seigneur, de ce qu'autant tu as ouvert les écluses des cieux pour répandre la pluie sur chacun de nous, autant tu ouvres les écluses des cieux pour répandre ta bénédiction. Nous avons prié hier et nous te bénissons de ce que tu as ouvert le ciel au-dessus de beaucoup de vies d'entre nous, Seigneur. Tu as ouvert le ciel et tu as répandu ta grâce. Tu as ouvert le ciel et tu as donné à chacun, Seigneur, sa part selon sa foi, selon sa confiance, selon son besoin. Oh Jésus, merci. Merci de ce qu'aujourd'hui encore, tu veux nous faire du bien par ta parole, mais aussi par l'action de ton esprit. Éloigne de nous toute faiblesse, quelle qu'elle soit. Éloigne de nous, Seigneur, toute fatigue qui pourrait nous empêcher de rester très attentifs alors que ta parole sera prêchée. Éloigne de nous, Seigneur, toute pensée captive qui viendrait du monde des ténèbres et qui chercherait, Seigneur, à perturber notre attention, à nous empêcher, ô Dieu, de saisir ta parole alors qu'elle sera proclamée. Bénis ton serviteur, fais de lui, Seigneur, ta bouche auprès de ton peuple. Bénis chacun de nous et donne-nous Donne-nous de manger ta parole. Seigneur, qu'elle soit vraiment, que ce moment soit un moment de véritable régal pour chacun de nous. Merci Jésus. Sois loué, sois béni. En ton nom, nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Eh bien, bienvenue à notre dernière soirée dans le cadre de notre séminaire dont le thème est « Quel est l'ADN du véritable chrétien ?» C'est donc le dernier jour aujourd'hui et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous a déjà communiqué comme vérité en rapport avec notre spécificité, en rapport avec notre singularité. Et aujourd'hui encore, nous voulons lui rendre grâce de ce qu'il va continuer à nous parler. Alléluia. Le Seigneur ne se fatigue jamais de nous parler. Gloire au Seigneur. Il ne se fatigue jamais de nous faire du bien. Et croyez-moi, des moments comme ceux-ci sont des moments de véritable bénédiction. Ce sont des moments qui sont précieux, puisque des moments mis à part pour le Seigneur et pour notre bien-être. Alléluia. Nous avons besoin d'avancer. Nous avons besoin d'aller de gloire en gloire. Nous avons besoin, mes amis, d'entrer de plein pied dans le plan que Dieu a pour nos vies. Et une occasion comme celle-ci, un séminaire comme celui-ci est une occasion de pouvoir nous disponibiliser pour Dieu, de pouvoir nous ouvrir à lui et lui donner l'occasion de nous enseigner. Alléluia. Gloire à Dieu. Quel est l'ADN du véritable chrétien? Voilà donc la question que nous nous sommes posés depuis l'entame de ce séminaire, depuis le premier jour, et depuis, le Seigneur, dans son amour, nous a donné quelques lumières, quelques vérités qui nous ont permis de réaliser que, mes amis, nous sommes des êtres spéciaux. Nous avons une particularité, nous avons quelque chose qui nous singularise, quelque chose qui fait que nous soyons distincts du reste de l'humanité. C'est quelque chose qui fait notre particularité, c'est quelque chose qui fait notre singularité, notre originalité. Ce quelque chose-là n'est autre que la signature de Dieu sur nous. Alléluia. Le sceau de Dieu dans chacun de nous. C'est parce que nous avons ce sceau en nous que nous sommes ce que nous sommes. Alléluia. C'est parce que nous portons la signature de Dieu, parce qu'à partir de cette signature, nous sommes devenus des épîtres vivantes que nous nous distinguons, mes amis, du reste de l'humanité. Même si, eh bien, nous fréquentons les mêmes lieux, même si notre apparence extérieure n'est pas différente des autres, mais ce que nous sommes véritablement est à l'opposé de ce que les gens de ce monde sont. Nous avons en nous une signature, mes amis, qui fait toute la différence, qui fait que nous sommes devenus le bien personnel du Seigneur de gloire. De ce que nous sommes devenus, mes amis, eh bien, le temple de Dieu, la maison de Dieu, le bien qu'il s'est acquis par sa mort à la croix du calvaire. Nous sommes donc en train de parler de la signature de Dieu, et cette signature n'est autre que la présence du Saint-Esprit dans chacun de nous. Mes amis, la chose la plus merveilleuse qui soit ou qui puisse arriver à un homme, c'est d'abriter la présence du Créateur dans sa vie. Gloire au Seigneur. La chose la plus merveilleuse, le bonheur suprême, la félicité glorieuse qui soit, eh bien, c'est d'avoir Dieu dans sa vie. Car lorsqu'on a la présence de Dieu en soi, mes amis, on a tout le ciel avec nous. On a plus que les anges réunis, rassemblés tous ensemble. La signature, le sceau de Dieu en nous, voilà donc, mes amis, l'ADN. Voyez, ce qui nous différencie des autres. C'est notre marque distinctive. Le Saint-Esprit en nous. Voilà donc, comme nous l'avons vu, ce qui nous singularise, ce qui fait de nous un peuple mis à part, un peuple scellé, marqué par le sceau du Dieu Tout-Puissant. Amen. Gloire au Seigneur. Eh bien, puisque nous avons cet ADN en nous, nous allons voir quelles sont les conséquences évidentes de porter la marque du Dieu en nous, d'avoir la signature du Dieu Tout-Puissant en nous. Voyez-vous? Comment tout cela, eh bien, va se passer autour de nous, de par cette marque singulière que nous avons dans nos vies, de par cette signature que le Seigneur, eh bien, a apposée sur chacune de nos vies. Nous allons relire Luc 4, et aujourd'hui nous allons rester dans ce passage, et encore, comme je vous l'ai dit, c'est un passage important. Nous trouvons dans ce passage l'héritage pentecôtiste, ce qui fait notre ADN, alléluia, ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, et nous le chanterons, le Seigneur voulant, à la fin. Luc 4, à partir du verset 1er, « Jésus rempli d'Esprit Saint revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Et certains manuscrits ajoutent, « Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable l'amena, verset 5, l'amena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde et lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ce royaume, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes, ou si donc tu m'adores, je te la donnerai, car elle m'a été donnée, elle m'a été remise, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. » Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit et sa renommée se répandit dans toute la région. Je pourrais ajouter comme une traînée de poudre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes donc, comme je viens de le rappeler, frères et sœurs, en Jésus-Christ, un peuple mis à part. En Jésus-Christ, nous avons reçu le sceau de Dieu. C'est la présence de cette signature en nous qui nous distingue du reste, donc, de l'humanité. Et pour nous permettre de mieux comprendre la notion de cachet ou de sceau à cacher, j'avais lu donc Agé 2, 23, où Dieu s'adressant à Zorobabel dans un contexte de restauration et du rétablissement du peuple de Dieu dans sa terre promise, après avoir été déporté pendant presque 70 ans ou 70 ans, le Seigneur s'adressant à Zorobabel lui dit en ce jour-là, « Je te prendrai et je ferai de toi un anneau à cacher, car c'est toi que j'ai choisi. » Oracle du Seigneur ou oracle de Yahvé, des armées. Anneau à cacher. Donc le sceau à l'époque, comme je l'ai souligné, n'avait rien à voir avec les sceaux tels que nous les avons aujourd'hui. C'était donc un anneau dans lequel était enchâssé un sceau, et dans la plupart des cas, ce sceau était donc fait de pierres de prix ou précieuses. Et le roi ou n'importe quelle autorité pourrait graver ses initiales qui constituaient donc sa signature. Alléluia. Et ce sol-là, à anneaux, pouvait donc être porté, comme nous l'avons vu, au doigt. On peut l'avoir sous forme d'un anneau avec une pierre enchâssée dans cet anneau. On pouvait le porter autour du poignet. On pouvait le porter autour de son cou. Dans ce cas, eh bien, suspendu par un cordon. Et ce sol-là, eh bien, était quelque chose de précieux. Il avait une double valeur. Alléluia. Je voudrais, avant d'avancer, d'aller plus loin, m'attarder un tout petit peu sur la double valeur qu'avait ce sceau, cet anneau sous forme de cachet. Il était doublement précieux. Premièrement, par sa valeur. Voyez-vous, ce cachet-là, mes amis, avait une valeur intrinsèque. Ce cachet-là, eh bien, avait une valeur extraordinaire. Et à cause de cette valeur, quiconque portait ce cachet sur lui, quiconque portait la marque de ce cachet, eh bien, jouissait aussi des privilèges tout à fait particuliers. Ça pouvait être, par exemple, la sécurité, la protection de la part des autorités. Voyez ? Donc, ça pouvait être toutes sortes d'honneurs. Donc, c'était un sceau qui avait une grande valeur. Lorsqu'on l'avait, mes amis, eh bien, quelque part, on avait le roi avec soi. Parce que c'était la signature, c'était le sceau de l'autorité suprême. Donc, voilà la première valeur. C'est que le sceau lui-même était porteur de cette valeur-là. Gloire au Seigneur. Mais il était aussi précieux. Deuxièmement, de par donc sa destination. Alléluia. La personne qui portait cela acquérait une importance extraordinaire. Donc ça octroyait, ça donnait au porteur de ce sceau un caractère spécial. Ça lui donnait, mes amis, un statut spécial. Tout en étant la même personne, à cause de ce sceau sur lui ou avec lui, cet homme, eh bien, changeait de statut. Alléluia. Il acquérait des avantages qu'il n'avait pas auparavant. Il jouissait des privilèges qu'il ne connaissait pas autrefois. Donc, c'était quelque chose de précieux de par sa valeur, car elle était, ou il était, ce sceau-là, porteur de la signature de l'autorité suprême, mais en même temps, ça avait de la valeur de par la destination. Donc, ça servait à quelque chose, à authentifier le document, alléluia, à accorder la certitude, mes amis, à certifier la vérité quant à la personne qui portait, mais aussi quant à la personne à qui appartenait ce sceau. Et nous, dans la nouvelle alliance, étant devenus, mes amis, le peuple de Dieu, nous avons reçu ce sceau. Ce sceau en lui-même a une valeur incommensurable, car ce sceau est la marque d'une personne, à savoir le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Non seulement le Saint-Esprit, eh bien, a une valeur incommensurable, mais aussi nous qui avons reçu, qui avons été scellés par le Saint-Esprit, nous avons acquis une plus-value extraordinaire. Alors que nous n'étions nulle part, nous n'étions rien, mes amis, alors que nous étions confondus avec la masse, alors que l'ennemi nous traînait partout, avec la présence de ce sceau en nous, nous sommes devenus spéciaux. Nous sommes devenus une race, mes amis, élus. Nous sommes devenus un peuple mis à part pour sa gloire. Nous acquérons une autre valeur que nous n'avions pas autrefois. Et cette valeur, mes amis, est au-dessus des anges. Il est important que nous le réalisions et comprenions comment Dieu est amour. Voyez-vous, les anges qui sont des êtres élevés en dignité, qui brillent de la gloire du Seigneur, vous imaginez, sont au service de ceux qui portent le sceau de Dieu. Vous vous rendez compte? Alors qu'ici, ne serait-ce que pour pouvoir profiter de la sécurité militaire ou policière, il faut remplir certaines conditions, oui ou non. Oui. Il faut être une autorité, il faut tel ou tel autre critère, telle ou telle autre condition. Alors seulement vous pourriez jouir d'une protection quelconque, que ce soit de la part de l'armée ou de la police ou de toute autre force, n'est-ce pas? Eh bien, il en est de même avec nous. Ce cachet nous confère un statut spécial qui fait que nous devenons, grâce à ce cachet, grâce à ce sceau, nous devenons cohéritiers avec le Fils de Dieu. Alléluia. À cause de cette signature sur nous, mes amis, eh bien, nous acquérons une valeur qui ne peut pas être estimée en termes humains, et je dirais même en termes célestes. Parce que celui qui vient habiter en nous, c'est celui qui a créé même le ciel. Alors comment voulez-vous évaluer sa valeur à partir de ce qu'il a créé, à l'aune de la création? Non, c'est impossible. Voyez-vous, mes amis, la signature de Dieu en nous nous donne une valeur extraordinaire. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, eh bien, tu ne devrais jamais ou tu ne devrais plus regarder à ta condition intellectuelle et te dire pourquoi je n'ai pas fait tant d'études, pourquoi je ne suis pas tel ou tel autre diplômé en ceci ou en cela. Eh bien, ce qui fait la valeur d'un homme, désormais, ou ce qui fait ta valeur, qui vaut plus que tous les diplômes du monde, qui vaut plus que tous les grades académiques, c'est la signature de Dieu en toi. Tu pourrais avoir un diplôme avec la signature du recteur. Tu pourrais avoir un diplôme avec la signature de telle autre autorité académique. Mais sachez que cette signature passera. Ce diplôme passera. Mais la signature que Dieu a posée sur toi est une signature éternelle. Gloire au Seigneur. À cause de cette signature, eh bien, toutes les portes sont ouvertes. Et lorsque les portes se ferment, c'est que lui ne veut pas. Voilà pourquoi la Bible nous dit, tout lieu que tu fouleras désormais est à toi, parce que tu as le passeport de Dieu. Tu as le sauf-conduit de Dieu. Tu l'as là. Tu peux marcher fièrement. Peu importe qui tu es, redresse la tête. Tu vaux plus que tout l'or de ce monde. Tu vaux plus que tous les docteurs en ceci ou en cela réunis. C'est une signature qui vaut plus que toutes les grandes académies du monde. Voyez, lorsque, vous savez, il y a des grandes universités dans le monde. Chaque année, on publie toujours la liste des grandes universités. Et depuis de nombreuses années, vous trouvez toujours dans le top les grandes universités américaines. Voyez, ce qui fait que lorsque quelqu'un a un diplôme, voyez, reçu dans une de ces prestigieuses universités, eh bien, où il passe, on lui pose, quand il remet son CV et quand on regarde, tiens, il a défendu, il a soutenu sa thèse à Harvard. Toutes les portes sont ouvertes. Ou telle autre université, n'est-ce pas? Simplement le sceau, le nom d'Harvard, le sceau qui atteste, qui authentifie la véracité du document. Voyez? Vous pouvez aller chercher le travail en babouche, même pieds nus. Mais avec ce diplôme, dès que vous arrivez, vous tombez peut-être sur des huissiers un peu zélés. Lui, là, je n'ai pas un master en quoi, là. Monsieur, tu viens faire quoi? Non, non, le recteur m'a appelé. Toi? Pourquoi? On a déjà engagé. Pensant peut-être que tu viens chercher du travail pour être secrétaire, pour balayer son bureau. Quand vous lui dites, non, je viens, c'est pour enseigner. Enseigner? Toi, tu as terminé ici? Elle dit, non, non, je viens de Harvard. Hein? Vous voyez, une simple signature sur un document suffit pour donner au porteur de ce document une certaine importance. Mais ici, il y a plus que le recteur, il y a plus que le président de cette université-là. Ici, mes amis, il y a celui qui est mort à la croix pour toi. Il est venu, il a signé sur toi en te donnant le Saint-Esprit. Alors désormais, ne tourne plus de regards inquiets. Maintenant, je ne dis pas que tu dois balancer tes études. Il dit non, j'ai déjà la signature, cela me suffit, c'est fini. Upen, allez, hop, au nom de Jésus. Pas du tout. Continue. Mais que tu aies un diplôme ou que tu ne l'aies pas, que cela ne change à rien quant à ta valeur. Que tu saches que tu as la signature du Dieu vivant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, à cause de cette signature en nous, à cause de cette particularité qui est la nôtre, de notre originalité ou de l'originalité de notre statut, eh bien, il y a des conséquences évidentes. Et ces conséquences, eh bien, ne sont que le reflet, la manifestation de notre ADN. C'est parce que nous avons cet ADN-là que ces choses seront là. Il est donc important que nous comprenions qu'est-ce qui se passe, quelles sont les conséquences évidentes, ou quel est le corollaire de cette situation, de cet état, du fait d'avoir le sceau de Dieu dans sa vie, la signature de Dieu sur nous. Eh bien, les conséquences, les résultats se trouvent une fois de plus dans ce chapitre de Luc 4, alléluia. Comme je vous avais dit, c'est un chapitre extraordinaire qui nous donne, je l'ai souligné hier, le vrai scanner de notre identité en Christ, alléluia, qui nous donne, si vous voulez, la vraie photographie de notre ADN en ce qui concerne notre statut, mais aussi notre vocation. Ce chapitre, mes amis, commence avec Jésus. Nous l'avons lu, Jésus rempli du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Ce chapitre se termine aussi par Jésus-Christ dans ce chapitre, qui allait de village en village proclamant la parole de Dieu. Il commence avec Jésus. Il se termine avec Jésus. Et entre les deux, nous avons le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je vous ai dit que dans ce chapitre, nous trouvons tout. Tout ce dont nous avons besoin, notre héritage, notre vocation, notre statut, notre véritable ADN. Alors, en ayant cet ADN, eh bien, qu'est-ce qui nous arrive? Quelles sont les conséquences? Eh bien, ce sont les mêmes conséquences que Christ a connues lorsque, rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit et poussé dans le désert, il a eu à faire la première rencontre. Et nous voyons, mes amis, dans ce passage, ce qu'on appelle en anglais la rencontre des puissances. Vous savez, d'un côté, la puissance de Dieu incarnée par Jésus-Christ, son Fils, Jésus le Tout-Puissant, et de l'autre, vous avez la puissance des ténèbres incarnée par le diable lui-même. Et le diable, mes amis, va à la rencontre du Seigneur. Je vous rappelle qu'il est rempli du Saint-Esprit, oui ou non? Je vous rappelle qu'il est conduit par le Saint-Esprit, oui ou non? Et tout en étant conduit par le Saint-Esprit, tout en étant dans la volonté du Père, nous le voyons, mes amis, confronté à une épreuve. Et à la base de cette épreuve, il y a donc le diable, il y a Satan. Je parle de l'épreuve parce qu'en grec, c'est le même terme qui tantôt est traduit par tentation ou par épreuve. Tout dépend du contexte. Perasmos. Tantôt tentation, tantôt épreuve. Même la tentation est une épreuve, oui ou non? Nous sommes éprouvés. Eh bien, la première chose, mes amis, que nous devons savoir, c'est que, en ayant la signature de Dieu en nous, en étant scellés par le Saint-Esprit, Eh bien, notre ADN fait que nous le voulions ou pas, que nous ayons jeûné ou pas, que nous ayons été remplis du Saint-Esprit jusqu'aux dents ou pas, que nous le voulions ou pas, de par notre ADN, nous aurons toujours à faire face à la tentation et à l'épreuve de la part du diable lui-même. Notre ADN l'attire. Notre ADN l'amène, mes amis, à nous rencontrer. C'est pourquoi nous devrions accepter toute tentation comme étant, mes amis, un effort de la part de l'ennemi de pouvoir nous précipiter dans le péché. Que tu sois tenté, que tu sois éprouvé, mon frère et ma sœur, sache que cela fait partie, je dis bien, fait partie de ton ADN. La tentation n'est pas là parce que on n'a pas assez prié, on n'a pas assez jeûné. La tentation est là parce que nous sommes encore dans un corps comme celui-ci, et parce que, étant sur cette terre et portant la signature de Dieu, eh bien, nous sommes devenus sa cible privilégiée. Le diable est allé vers le Seigneur, tout en sachant qui il était. Parce qu'on entend souvent des réflexions du genre, « Ah oui, mais Dieu qui connaît tout, pourquoi n'avoir pas permis au diable de ne pas me tenter ?» Oui ou non ? Mais pourquoi n'a-t-il pas permis aussi au diable de ne pas tenter son fils ? Le diable est sur cette terre, et la Bible dit que le monde entier gît dans le diable. Il exerce son emprise sur le monde, donc ce n'est pas étonnant que nous le rencontrions de temps à autre. Ce n'est pas étonnant, mes amis, qu'il utilise toutes sortes de choses pour nous tenter. Et c'est ce qu'il a fait. Première tentation, première épreuve. Eh bien, c'est sur le plan physique. Le Seigneur était en jeûne. Il avait été conduit par le Saint-Esprit à jeûner et à prier, oui ou non. Et lui vient, le diable vient, il vient lui proposer de manger. Vous voyez ? Quoi de plus légitime entre nous ? Quoi de plus normal que de manger après un long jeûne ? Oui ou non ? Mais à quel niveau se situait la tentation ? Voilà. Parce qu'après, le Seigneur a fini par manger plus tard. Oui ou non ? Donc, à quel niveau se situe la tentation ? Il est vrai que le besoin physique qui est mis en évidence ici, c'est celui de la nourriture, car c'est un besoin impérieux. Mais au-delà de la nourriture, eh bien, ceci concerne tout le besoin qui tourne autour de l'homme sur le plan physique. Et l'ennemi sera là pour nous tenter dans ce domaine-là. Et ici, il le tente dans quelque chose de légitime. Voyez ? Qu'est-ce que lui dit-il ? Eh bien, il lui demande de dire à cette pierre, à une pierre, de devenir du pain. Si tu es le Fils de Dieu. Si tu es. C'est là une proposition conditionnelle. Vous voyez ? Si tu es. Il a toujours agi de cette manière. Avec Adam, avec Ève, c'était la même chose. Si Dieu a-t-il réellement dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, regarde ce que tu dois faire. Mais ce n'était pas au diable de dire au Seigneur ce qu'il devait faire. Alléluia. Il était venu sur cette terre pour accomplir uniquement la volonté de son Père. Même dans ce qui est légitime, de l'or, que cela, mes amis, n'est pas conforme au plan de Dieu, nous devrions le rejeter. Car quelquefois, à partir de la légitimité d'un besoin, on essaie de justifier la source à partir de laquelle nous avons rencontré ce besoin. Vous voyez ? Pas du tout. Nous devons apprendre, mes amis, et ça c'est une des leçons, je ne vais pas m'attarder là-dessus, nous devons apprendre à discerner, nous devons apprendre, mes amis, à discerner l'origine de toute pensée spirituelle. Quand bien même cela, quand bien même elle aurait une forme véridique. Regardez ici, la forme de cette parole du diable est tout à fait légitime. Hein? Puisque tu as faim, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger. Mais pour manger, parce que toi tu es tout puissant, tu dis un mot et la chose, mais dis seulement cette pierre qui va devenir du pain et tu vas rencontrer ton besoin. Nous devons, mes amis, avoir le discernement. Ce n'est pas parce que la forme d'une pensée est bonne et même conforme à la parole de Dieu que le fond vient de Dieu. C'est là que nous devons faire attention avec les prophéties. Voyez-vous? Quelqu'un peut nous donner une prophétie avec une forme, mes amis, qui reflète la vérité de la parole de Dieu, mais avec un fond qui ne vient pas de Dieu. Car le diable utilise aussi la parole de Dieu pour essayer d'avoir les gens. Combien aujourd'hui le regrettent? Parce que, avec le temps, ils se sont rendus compte que la prophétie, entre guillemets, qu'on leur avait donnée, tout en ayant une forme tout à fait biblique, s'est avérée plus tard être une œuvre du diable. Combien? Même dans le domaine du mariage. Il y en a qui l'ont regretté par après. Ah oui, pourtant on m'avait dit que c'est elle, que Dieu avait dit que c'est la femme de ma vie. Dans ce domaine, elle a fait très attention. Ce ne sont pas les rêves qui vont choisir à votre place. Ce ne sont pas les prophéties qui vont choisir à votre place. Dieu nous a donné une intelligence. Dieu nous a donné la maturité. Nous devons réfléchir. Dieu ne nous impose pas une candidate. Ni un candidat, comme en politique. Oui ou non? Quand vous le vouliez ou pas, il dit non. Dans cette circonscription, pour les législatives, nous, c'est lui. Vous n'avez pas de choix. Si vous voulez que nous soyons représentés à l'Assemblée nationale, c'est lui, notre candidat. Avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas une élection au ciel. On amène trois sœurs, trois jeunes filles. Au ciel, les anges se conceptent. Nous élisons telle sœur. Ou nous élisons tel frère. Ça ne se passe pas comme ça. Chacun de nous est concerné. Ce ne sont pas les anges qui feront votre mariage. Quand même les anges se prononceraient, c'est à vous que revient la dernière décision. Parce que c'est vous qui ferez le mariage. Nous devons donc discerner l'origine de toute pensée. Et ici, il n'y avait rien d'immoral dans la demande du diable, oui ou non? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y avait d'amoral ou d'immoral dans la demande du diable qui demande simplement au Seigneur d'accomplir un miracle pour répondre à un besoin physique légitime? Donc vous voyez, il n'y avait rien de moralement mauvais. Mais le Seigneur est venu pour accomplir en tout et pour tout la volonté du Père. Il avait été conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour jeûner. Alléluia. Et ce n'était pas au diable de lui dire le moment qu'il devait lever le jeûne, ce qu'il devait faire pour avoir la nourriture. Vous voyez? Ce n'était pas à lui, car malgré son incarnation, il restait son Seigneur. C'est ce que lui dira plus tard. N'est-ce pas? Nous aussi, mes amis, le fait d'être tenté dans nos besoins physiques, quels qu'ils soient, fait partie de notre ADN. Alors, mon frère, ne sois pas surpris. Ma sœur, ne sois pas surpris. D'ailleurs, Jacques, pas Jacques Chirac, hein, Jacques, l'apôtre, nous dit au chapitre, dans son épître, l'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 12. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Prenez de très bon cœur, mes frères, toutes les épreuves par lesquelles vous passez. Prenez les épreuves de bon cœur. La version française courante nous dit, mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Comment Dieu, qui nous aime et qui sait très bien comment l'épreuve est dure, lui qui cherche notre bonheur, oui ou non, comment peut-il se plaire, accepter de nous voir pleurer, de nous voir humiliés par toutes sortes d'épreuves? Eh bien, mes amis, nous n'avons pas d'autre choix. Les épreuves font partie de notre ADN. Alléluia. Le Fils de Dieu qui n'a jamais péché, le Fils de Dieu qui est venu pour accomplir la volonté du Père et qui l'a accompli, mes amis, à la perfection, a fait l'objet de toutes sortes de tentations de la part du diable. En combien plus forte raison, nous, ses enfants, qui portons sa signature, nous ferons aussi l'objet de toutes sortes d'attaques de la part de l'ennemi. C'est pourquoi la Bible nous demande de veiller. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous demande de travailler notre intimité avec le Seigneur. Car plus nous nous attacherons davantage au Seigneur, plus nous aurons les ressources qui nous permettront de rejeter toute tentation, de faire reculer l'ennemi derrière la tentation. Et quelquefois, nous n'aurons même pas besoin de lui dire au nom de Jésus, pas du tout. Notre cœur étant rempli de sa présence, de la présence du Seigneur, le Saint-Esprit travaillant en nous, eh bien, nous donnera la force de dire non. Alors que le corps va être attiré par la tentation, alors que toutes nos pensées vont essayer de nous amener vers l'objet de la tentation, l'homme intérieur en nous, celui qui se renouvelle, qui est renouvelé davantage à l'image du Créateur, l'homme intérieur en nous, occupant toute la place, va résister. Alléluia. Donc, l'épreuve, la tentation, fait partie de notre ADN. Si tu passes par des moments difficiles, mon frère, ma sœur, ce n'est pas forcément, nous l'avons vu le dimanche, ce n'est pas forcément parce que tu aurais péché quelque part, parce que tu aurais manqué de consécration, Seigneur, parce que tu aurais été absent deux dimanches à l'église, et comme résultat, Dieu t'aurait puni. Vous voyez, quelquefois, nous avons une vision un tout petit peu gendarmesque de Dieu. Dieu comme un gendarme, vous voyez, qui est toujours là pour dresser des procès-verbaux. Ou un policier, ici, il n'y a pas de gendarme. Un policier, il est toujours là. Et petit. Ah non, vieux, ok. Il est notre père, mes amis. Il nous aime. Il sait de quoi nous sommes constitués. Il connaît nos limites. C'est pourquoi il nous demande de nous appuyer toujours sur lui, d'avoir toujours nos yeux fixés sur lui. Lui, il est passé par là. Lui seul a su résister à la tentation. Le premier Adam avait succombé à la tentation du serpent du jardin d'Éden. Le dernier Adam, le parfait, lui a triomphé. Il a vaincu. Donc, l'épreuve, la tentation. Même en venant ici, tu as été tenté. Regarde-toi. Tu as été tenté, non? Je dis, ah Seigneur, Saint-Esprit, oh, il est parti de moi. Reviens, Saint-Esprit. Ça fait partie de la vie. C'est à toi de te discipliner, de ne pas donner l'occasion à l'ennemi d'être tout le temps là pour souiller tes pensées, car tout commence par la pensée. L'ennemi, pour nous avoir, va essayer, mes amis, de placer devant nous toutes sortes d'images obscènes, toutes sortes de scènes ignobles et scabreuses, tout cela dans le but de corrompre notre pensée. Et lorsque notre pensée est corrompue, eh bien c'est fini. Pourquoi? Parce que tout ce que l'homme fait est le produit de ses pensées. Voyez-vous? C'est pourquoi nous devons constamment placer nos pensées sous le contrôle du Saint-Esprit. Comment? En nourrissant nos pensées, en arrosant nos pensées avec la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole, mes amis, qui va laver. Et aussitôt qu'il y a une image qui n'est pas bonne, et tout de suite nous avons cette capacité de nous détourner des yeux.
et de regarder ailleurs. C'est tout. Mais si nous sommes imbus de nous-mêmes, mes amis, si la chair prend toute la place, quelquefois tu as beau faire ça, tu vas voir que malgré toi, voilà. Par nous-mêmes, nous sommes incapables de vaincre la chair. Nous avons besoin du Seigneur, alléluia. Donc, une des conséquences du fait que nous avons l'ADN du Seigneur, c'est que nous ne le voulions pas, nous rencontrerons la tentation. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons la capacité de résister à la tentation. Alléluia. Nous avons la capacité, mes amis, de traverser l'épreuve avec force et de marcher sur l'épreuve. Gloire au Seigneur. Donc, le Seigneur a été attaqué. Attaqué dans son corps physique. Mais l'ennemi ne s'est pas arrêté là. Il va aussi attaquer le Seigneur dans son âme et dans son esprit. Bref, il attaque le Seigneur dans son être tout entier. Il ne se limite pas simplement. Il est très têtu, hein, le diable. Il ne s'arrête pas simplement à tout ce qui est physique, à tout ce qui est besoin, désir physique. Il l'amène plus loin. Vous voyez? La Bible nous dit qu'il l'amène plus haut. Plus haut, où c'est? Eh bien, à l'endroit le plus élevé de la ville de Jérusalem. Et là, il lui montre en un instant tout le royaume du monde. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Je te donnerai tout ce pouvoir ou toute cette autorité et la gloire de ce royaume, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Il amène plus haut. Il lui montre, mes amis, les royaumes. Il lui montre les différents états, les différents peuples, les différents pays, avec leur gloire, leur rayonnement, n'est-ce pas? Donc, entre autres, il lui montre l'Empire romain, avec le grand César, n'est-ce pas? Il lui montre d'autres royaumes, avec leur magnificence, avec leur rayonnement, etc. Et il lui dit ceci, « T'as vu tout cela? Eh bien, je suis prêt à te donner cette autorité. Je suis prêt à te donner ce pouvoir et la gloire de tout ce royaume, si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, car elle m'a été donc, elle m'a été remise, donc la gloire, hein, la gloire, elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. » La première chose ici, mes amis, le Seigneur n'a pas remis en question les propos du diable. Le diable affirme bien que le pouvoir, que l'autorité des nations lui a été remise. Oui ou non? Maintenant, je vous pose la question, car je sais que vous êtes très intelligent. Qui lui a remis ce pouvoir et cette autorité? Ah. Voilà la question. Ça, c'est bien dit. Qui lui a remis ce pouvoir? Qui lui a remis cette autorité? Ce n'est pas Dieu. Dieu avait donné l'autorité à l'homme de régner sur terre. Dieu avait donné l'autorité, le pouvoir à l'homme de dominer tout règne. Tant que l'homme était soumis à Dieu, il exerçait cette autorité sans aucun problème. N'est-ce pas? Il jouissait de cette gloire dont Dieu l'avait doté, qui lui permettait d'exercer l'autorité de régner sur toute chose. Mais avec la tentation et avec la chute dans le péché, l'homme a cédé, hélas, ce pouvoir, l'autorité que Dieu lui a donnée. Il a cédé à qui? C'est comme ça que maintenant le diable a tout le pouvoir sur les hommes. Hein? Ça remonte. Hein? Ça remonte. Voyez? Donc le Seigneur ne dit pas menteur. Petit menteur. Tout m'appartient. Non. Hélas, Dieu a créé l'homme à son image. Il lui a donné le libre arbitre. Il lui a donné le pouvoir de choisir. Et en même temps, il lui a donné le pouvoir de régner. Surtout. Mais l'homme, ayant succombé à la tentation, a donné lui-même ce pouvoir au diable. Et le Seigneur ne refute pas, ne reprouve pas le diable en lui disant « t'es orgueilleux », etc. Pas du tout. Et le diable affirme « je le donne à qui ?» De quel pouvoir le diable parle-t-il? Puisqu'il est question des nations, puisqu'il est question des royaumes, pour aller plus vite, il parle de ce que nous appelons l'impérium, le pouvoir politique, le pouvoir financier, le pouvoir social, le pouvoir médiatique. Tout ce pouvoir-là, mes amis, eh bien, le diable peut le donner à qui il veut. Il a dit, si tu m'adores, je te donnerai tout cela. Vous comprenez pourquoi ici, j'ouvre une parenthèse. L'homme a toujours cherché le pouvoir par tous les moyens. Et pour avoir ce pouvoir, l'homme n'a pas hésité à faire alliance même avec le diable. C'est ce qui se passe dans beaucoup de confréries mystiques. C'est ce qui se passe dans la plupart de toutes ces sociétés mystiques et secrètes. L'homme est à la recherche du pouvoir, le pouvoir pour régner. Voyez ? J'ai suivi une fois, mais ça c'est quelque chose de tout à fait connu, beaucoup de nos chefs ici en Afrique, comme d'ailleurs là en Europe, s'entourent de toutes sortes de magiciens, de toutes sortes de sorciers, de toutes sortes de marabouts. Vous voyez? Beaucoup vont chercher le pouvoir dans le monde des ténèbres. Ils vont chercher le pouvoir auprès du diable. Et le diable est prêt à donner le pouvoir à quiconque est prêt. À faire quoi? À l'adorer. Et beaucoup se sont compromis. Par leur vie, ils ont fait allégeance au diable. Des criminels, des voyous, des bandits tout faits. Vous voyez? Qui tuent. Parce que le pouvoir est entre leurs mains. Donc ici, c'est le pouvoir sur les nations. C'est le pouvoir sur la société. Et par conséquent, c'est un pouvoir de type politique. C'est-à-dire un pouvoir en rapport avec la gestion de la cité. Et pour gérer la cité, il faut avoir les robinets financiers. Oui ou non? Il faut avoir le pouvoir politique. La mainmise sur les syndicats, etc. Tout cela, va permettre à celui qui a le pouvoir d'exercer son pouvoir sur la cité. Mais le Seigneur lui répond ceci, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. » Il n'y a qu'à Dieu, mes amis, que nous devons rendre un culte. Alors mon frère et ma soeur, toi qui cherches le pouvoir par tous les moyens, même au risque de vendre ton âme, réfléchis trois fois. Ceux qui courent après les sorciers, après les ngangas, après les marabouts, avant chaque élection, ils vont chercher le pouvoir. Mais c'est au prix de votre mort. Voyez? Le diable peut vous donner ce pouvoir-là, mais en retour, il vous réclamera la vie. Car adorer le diable, c'est lui confier sa destinée. Se mettre sa vie entre les mains du diable, c'est un vrai boucher. C'est un vrai charcutier. Si vous remettez votre vie entre ses mains, vous retrouvez comme un goulou tué, tout ça. Il vous tue, il met la viande à vendre, commence à faire la publicité. Voyez-vous? Donc bref, dans ce domaine-là aussi, nous pouvons être tentés. Oui. C'est pourquoi, si vous voulez vous impliquer dans la gestion de la cité, c'est une bonne chose. Vous, chrétiens, je parle. Il faut réfléchir deux fois. On a vu des gens se compromettre. Vous savez ça? Parce qu'ils se sont retrouvés à mentir pour plaire au chef, pour plaire à celui qui vous a placé là-bas, votre ministre. Il dit non, Bukalukuta. Dis-leur, ok. Et vous arrivez, vous, chrétiens, on vous pose la question et tout ceci est non, nous avons déjà tout résolu, tout en sachant que vous êtes en train de mentir. Acceptez cela, C'est accepter de naviguer à nos troubles. Et à nos troubles, il faut plus qu'une boussole. Accepter cela, mes amis, c'est accepter de naviguer à vue. C'est marcher dans du sable mouvant. Il faut savoir là où on met le pied. Dans le sable mouvant, on ne sait pas qui est en dessous là. C'est peut-être un alligator qui s'est reposé calmement. Et vous là, dans vos ambitions de devenir absolument je ne sais qui. Quand vous vous rendez compte, la jambe est mangée. Vous essayez de soulever, pas moyen. Vous commencez à vous enliser. Et heureusement, vous avez une femme qui prie. Enfin, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Vous commencez à faire des rêves. Oui, je rêve tout le temps d'un gando qui court après moi. Mais vous êtes déjà dans la gueule d'un alligator qui vous tient là. Heureusement, il y a des gens qui prient pour vous. C'est peut-être le voisin. Le voisin là que tu méprises quand tu sors. Mais tu ne sais pas qu'il est intercesseur à la borne. Alléluia. Quand tu sors, Seigneur, bénis cet homme. Je prie pour son âme qui se donne à toi. Seigneur, je brise ses liens. Le serviteur de Dieu, lui, ne sait pas tout ce qui se passe. Mais Dieu le conduit, comme la Bible nous dit, par des soupirs inexprimables. Eh bien, nous arrivons à mettre devant Dieu des prières. Le Saint-Esprit qui connaît le besoin. Voyez, voyant ce que son serviteur fait, prier constamment pour la personne, à un certain moment, agit. Et le Saint-Esprit met seulement son doigt dans l'œil de l'alligator. Il lâche. Vous sortez et vous pensez que c'est par vous-même. Parce que vous avez rencontré des amis, je ne sais de quel cercle culturel. Non, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour vous. Le pouvoir. L'ennemi peut nous tenter dans ce domaine-là. Mais, attention, il n'y a pas que le pouvoir, l'impérium politique, économique, social, tout ce que vous voulez. Le diable ne s'est pas arrêté là. S'il a refusé, il a rejeté le pouvoir politique. Il n'avait que faire d'établir un royaume ici sur terre. Ceux qui veulent absolument qu'il y ait un État qui soit Jésus devraient lire ce passage. Vous voyez, le Seigneur est en train de construire son Église. Et son Église est constituée des hommes venant de tous les pays du monde. Alléluia. Il n'y a aucun pays qui soit indigne de la grâce de Dieu. Il n'y a aucun pays qui puisse dire non. Nous là, c'est Jésus. Mais c'est Jésus qui a tracé les frontières. Donc, la deuxième chose, c'est un autre type de pouvoir qui est même beaucoup plus dangereux. Car après tout, le pouvoir du monde, c'est entre eux. Hein? Oui ou non? Entre eux. Si vous regardez dans un marigot, il y a plusieurs crocodiles, ils cohabitent paisiblement. Hein? De temps en autre, ça se dispute, mais bon, ils restent entre eux. Ils sont dans leur élément. Oui. Mais le deuxième pouvoir, il est beaucoup plus sournois, mais tout aussi dangereux s'il est mal géré. Où il amène? Verset 9. Le diable conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple. Lisez bien. Il le plaça sur le haut du temple. Et si l'Église existait à cette époque-là, croyez-moi, le diable l'aurait amené où? Il l'aurait amené et le placé sur le haut de l'Église, sur le clocher de l'Église. Oui, mais ici, c'était le temple. C'était le lieu d'adoration par excellence. Voyez? Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. En cet endroit, il accompagne sa tentation avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit, c'est un pouvoir qui est encore beaucoup plus dangereux.
Parce que c'est un pouvoir qui concerne aussi bien ce qui se passe dans l'espace, dans le temps, que ce qui se passe sur le plan spirituel. Avec ce pouvoir, vous pouvez maintenir les gens dans leur tombe spirituelle et les empêcher de rencontrer le Seigneur. Voyez-vous? Eh bien, car il est écrit, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte une pierre. Et le Seigneur lui répond, il est dit. Alléluia. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Tu ne tenteras pas le Seigneur. Attardons-nous un tout petit peu sur ce pouvoir-là. Il le place en haut du temple. Ici, mes amis, nous sommes en face du pouvoir religieux. Quelqu'un a dit en juste titre que le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Tout type de pouvoir, s'il n'est pas bien géré, peut devenir, mes amis, une épée retournée contre nous-mêmes. Le pouvoir religieux, ici, le diable demande au Seigneur, il amène au haut du temple. Et du haut du temple, il lui dit, mais jette-toi, car il est écrit, et c'est vrai, nous allons lire cette parole-là, il est écrit que quand tu ferais cela, Dieu, qui est ton Père, enverrait les anges pour t'empêcher de tomber afin que ton pied ne puisse pas heurter la terre ou le sol. Ce pouvoir-là, mes amis, nous devons faire très attention. Quand on voit aujourd'hui, même dans nos milieux dits des Pentecôtes, certains qui ont reçu simplement un mandat qu'ils confondent avec un pouvoir, il faut voir comment ils se comportent. Voyez-vous? On le voit. Nous sommes des pentecôtistes, mais nous appartenons à la famille protestante, oui ou non? Même si nous ne protestons pas. Oui, avec le diable, oui. Oui. Mais j'ai observé une chose. Autrefois, tous ceux qui ont une responsabilité parmi les protestants ne s'habillaient pas comme ceux que nous voyons. Je l'ai vu, je le dis. Nous devons les aider. Car le pouvoir religieux aveugle, on le voit bardé de vêtements somptueux. Voyez, aux couleurs vives, des vêtements bizarroïdes, avec des crosses. Et là, il cherche quoi? On ne peut pas servir le Seigneur avec des choses comme ça. Puisque ce sont des choses qui poussent les gens à se mettre en valeur malgré eux. Et nous devons dénoncer ces histoires. Nous devons revenir au principe de la parole de Dieu. Quel a été le principe de base du mouvement protestant? La sola scriptura, la seule écriture. Demandez à tous les protestants. Voyez? La seule écriture. Donc on ne pouvait rien faire qui soit en dehors de l'écriture. Mais aujourd'hui, est-ce que ce qu'on fait là, je le dis, si vous êtes là, c'est pour votre bien. Parce que vous amenez les gens à avoir une autre opinion sur vous. Oh, le Seigneur dit, faites tout pour ne pas donner l'occasion aux gens d'avoir une autre opinion. Certains, on les appelle, mais même mon Seigneur. Il n'y a qu'un seul qui est Seigneur. Gloire à Dieu. Nous refusons. Je prêcherai ces choses. On ne peut pas prendre le titre du Seigneur de gloire, l'associer à l'autorité d'un homme, quel qu'il soit. Qu'on l'appelle évêque, c'est biblique. Gloire au Seigneur. Qu'on l'appelle archevêque, c'est biblique dans le sens de le chef des évêques. Mais qu'on ne l'appelle pas mon Seigneur, de grâce. De grâce. Il y a un seul Seigneur. Appeler quelqu'un mon Seigneur, c'est lui donner une place qui ne revient pas. Et Jésus a dit, tout ce qui est élevé parmi les hommes est quoi? est une abomination. Revenons à la sola scriptura. Tout le monde le sait, je n'ai pas inventé. Ça se dit en latin, parce que Martin Luther, qui a lancé la réforme protestante, après avoir sondé les Écritures, est arrivé à la conclusion que l'homme n'était pas sauvé par les œuvres, mais plutôt par la foi en... Alors, ils sont arrivés à cette conclusion qui dit, non, nous les protestants, notre principe, c'est la sola scriptura, la seule Écriture. Alors, respectons-la. Elle est complète, elle est entière. On n'a pas besoin d'avoir l'intelligence de l'ange Michel pour la comprendre. Dieu peut nous aider. Jésus l'a dit, enseignons cette parole. C'est elle seule qui peut changer. Maintenant, on peut avoir une responsabilité. La vraie responsabilité. Le vrai pouvoir, c'est le pouvoir qui conduit un responsable à être serviteur de son peuple. C'est tout. Jésus a dit que celui qui veut être grand parmi vous devienne leur. On ne peut pas servir, on ne peut pas être serviteur lorsqu'on s'habille de cette manière spéciale. Voyez-vous, par votre façon de vous habiller, vous vous mettez vous-même à l'écart. Et en étant à l'écart, vous ne pouvez plus servir. Et vous donnez l'impression que c'est vous qu'on devrait servir. Car dans le royaume de Dieu, il n'y a que deux catégories, deux statuts. Soit maître, soit serviteur. Il n'y a pas de catégorie intermédiaire. Non, nous, c'est la classe moyenne. Il n'y a pas. Dans le royaume de Dieu, il y a le maître. J'utilise l'article défini. Le maître. Le Seigneur. Et puis il y a les... Même nous qui prêchons. La Bible nous dit que Paul pouvait dire, je suis serviteur de la parole. Je ne demande pas à la parole de marcher après moi pour l'amener où je veux. Je veux avoir deux femmes, j'ai dit, allez, viens. Ok. Trouve-moi là où je peux justifier ceci. Abraham, ok, tu vois, ok. Ouais. Nous sommes serviteurs de la parole. Nous suivons la parole. Et quelquefois, elle nous amène dans des endroits, et souvent, pour que nous soyons humiliés. Le pouvoir religieux. Nous parlerons. Je reviendrai quand je vais parler de l'esprit de Gabata. Je vous donne déjà un avant-goût. C'est un des traits de cet esprit-là. Quand vous allez comprendre ce qu'est le Gabata, le contraire de Golgotha, eh bien, vous avez tout compris. Et nous en parlerons, car c'est aussi un esprit qu'il faut absolument combattre dans nos communautés. Il se trouve même que maintenant, même des communautés pentecôtistes sont en train d'être corrodées, corrompues par cet esprit-là. On court après les titres. Hein? Donc, on n'est plus serviteur. Pour peu qu'on ait une responsabilité au niveau du district, c'est fini. Non. Non, nous devons dénoncer. Vous avez une responsabilité, c'est pour servir. Et quand vous parlez à vos frères pasteurs, eh bien, ce sont vos frères pasteurs. Vous n'avez qu'un mandat. Je vais vous dire une chose. Nous vivons dans la confusion quant à la notion de pouvoir et d'autorité. Un exemple très simple, je continue. Vous avez un député. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce qu'un député est une autorité? Non. Non! Il est un élu. C'est un représentant. C'est vous qui lui avez donné la voix. Quand il vient vers vous, il fait le petit. Parce qu'aux prochaines séances, vous risquez de ne pas voter pour lui. Donc, celui à qui on a donné le mandat n'a pas le pouvoir. Je parle du député. Le député représente. Mais chez nous, ici, un député, c'est un chef. Il arrive dans sa circonscription, c'est comme si c'est le président de la République ou le premier ministre. Ce sont des autorités. Ils sont à la tête des institutions. C'est différent. Le président de l'Assemblée nationale, il est à la tête de l'institution. C'est une autorité. Mais les élus, vous dépendez de nous. Donc, s'il y en a qui abuse, vous l'appelez. Parlez-lui. Il dit, mais en 2006, là, tu pleurais, tu es venu chez moi. J'étais assuré ma voix avec notre groupe là. Maintenant, tu commences à te comporter comme ça. Tu dois arrêter ça. Et ce qui est souvent terrible, c'est que les mêmes gens à qui on donne nos voix vont prendre des décisions qui nous mettent en porte-à-faux avec notre foi. C'est là que vous devez réfléchir trois fois. Ne donnez pas la voix parce que c'est quelqu'un de ton ethnie. Oh, il vient de Kanyama ou je ne sais pas d'où. Alors que ce n'est pas parce qu'il vient de là que c'est un ange. Ça peut être un petit démon. Alors vous allez voter pour un petit démon parce qu'il est de ton ethnie? Non? Gloire au Seigneur. Très rapidement. Oh là là. On doit prier. Mais enfin, il faut. Donc, alors, ce qui est terrible dans tout ça, il va utiliser le psaume 91, verset 1, qu'il cite, hein, il dit, « Car il donnera pour toi des ordres à ses anges, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, etc., de peur que ton pied ne heurte contre eux. » Il s'arrête là, mais le psaume se poursuit. Voilà comment le diable travaille. Il utilise la parole de Dieu qu'il fait sortir de son contexte. Il mutile la parole de Dieu, voyez, qu'il interprète mal. Si vous lisez la suite, et je vais demander à ceux qu'on mette la suite, s'il vous plaît. Si vous lisez la suite, donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Et tu fouleras le lionceau et le... C'est la parole de Dieu. Il s'est arrêté au milieu. Parce qu'il savait que ceux qui venaient... Voilà comment il coupe la parole. Il fait des césures dans la parole de Dieu. Voilà. C'est ça. Et les trois figures que nous trouvons ici, c'est-à-dire lion, c'est-à-dire dragon, c'est-à-dire vipère, sont les trois figures que la parole de Dieu utilise pour nous parler de la personnalité et de l'œuvre du diable. Les trois figures sont là. Pour aller plus vite, dans 1 Pierre 5, 8, la Bible nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable » rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Première figure, le lion c'est un prédateur. Le lion n'est pas là pour cajoler les autres animaux. Quand tu vois une gazelle, oh ma biche, oh ma gazelle que tu es mignonne, regarde comment tu marches avec prestance. Non, pas du tout. Dès que la biche, il se met en attente, voyez? Eh bien, c'est un prédateur, c'est un carnivore. Il est destructeur, le diable. Mais il y a aussi la figure du dragon que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 2. Voyez? Donc, si on peut me projeter ça rapidement, s'il vous plaît, pour avancer. OK. Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le et Satan. Voilà. Les deux autres figures que la Bible utilise pour parler de la personnalité, pour parler de la nature du diable et de sa vocation à détruire, c'est donc la figure de dragon et la figure des serpents. Et ici, c'est le serpent dans ce qu'il a de terrible. C'est la vipère, hein? Et on sait, la morsure d'une vipère est toujours mortelle. Parce qu'il y a des petits serpents mignons. Hein? Certains les aiment. Hein? On peut avoir, il y a des serpents qui n'ont pas de venin. Vous voyez, il y en a qui arrivent à les domestiquer, etc. Mais ici, la Bible précise, c'est une vipère. Donc, son poison est là pour détruire.
Alors, mes amis, de par notre ADN, nous aurons affaire à celui-là qui va essayer de nous tenter quelquefois en tordant le sens de la parole de Dieu. Et beaucoup tombent dans ce piège, n'est-ce pas? Donc, et la suite, puisque nous allons prier, de notre ADN, c'est que après avoir vaincu le diable avec sa tentation, avec cette épreuve-là, le Seigneur va prêcher la parole. La deuxième difficulté, la deuxième épreuve qu'il va rencontrer, c'est avec les hommes. Dans le même chapitre, au verset 22, il nous a dit, 28 plus tôt, « Ils furent tous remplis de fureur dans la synagogue lorsqu'ils entendirent cela. Ils se levèrent, le poussèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à la montagne. » Là, il a affaire à qui? Il a eu affaire au diable. Cette fois-ci, il a affaire à qui? Aux hommes. Mon frère, ma sœur, que les gens se dressent contre toi, qu'ils cherchent à te précipiter du haut de la montagne pour que ta vie soit détruite, cela fait partie de ton ADN. Mais seulement ne tremble pas. Celui qui est avec toi, eh bien, celui qui a posé sa signature sur toi, te tient dans sa main. Gloire au Seigneur. Même du haut de la montagne, si c'est lui qui t'a amené là-bas, l'autre n'arrivera jamais à te précipiter pour que tu sois détruit. Alléluia. Il continue. Après avoir rencontré l'épreuve de la part des hommes, cette fois-ci, il rencontre les esprits impurs qui sont dans les hommes. Il a rencontré le diable en personne. Cette fois-ci, il rencontre des gens qui sont démonisés. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Le diable, le démon se manifeste. Jésus le menace et lui dit, « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon part. Eh bien, chasser le démon fait partie de notre ADN, mon frère et ma sœur. Tant que nous avons la signature de Dieu en nous, nous avons le pouvoir de nous dresser contre tout esprit impur. Et ce soir, nous prierons. S'il y en a qui sont manipulés par des puissants démoniaques, nous allons les ordonner. Nous n'allons pas sauter, crier, dormir partout. Non, nous allons faire comme Jésus. Tais-toi et
sors.
Ça fait partie de notre ADN.
Amen.
Alléluia. Alors, ne tremble pas. Tu as affaire aux démons. Résiste. Il ne faut pas toujours aller chercher les gens. Oui, dans un premier temps. Mais tu ne devras pas toujours t'appuyer sur le pasteur, sur tel autre frère, sur tel ancien. Pour peu qu'il y ait un esprit qui agite un tout petit peu les eaux autour de toi. Hé, frère, je ne dors plus. Il y en a qui dorment avec leur GSM ouvert pour appeler à chaque fois le prophète ou la prophétesse. Je viens de rêver de bonobo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. C'est terrible, hein? Dors en paix. Je coupe mon GSM, je dors comme un enfant. Car je sais que celui qui veille sur moi la nuit ne sommeille. Si toi tu t'appuies sur ta prophétesse, mais il y aura un jour où son GSM sera l'obat. Ou même de moments où elle dormira tellement qu'elle n'entendra même pas la sonnerie. Parce qu'elle aura oublié un mode vibreur. Mais le nôtre, il est toujours disponible pour nous. Alléluia. On n'a pas besoin de chercher le GSM ou dans le noir, non? Même sur votre couche. Seigneur, je te bénis, car tu es là. Ce rêve ou ce cauchemar vient de me perturber, mais Seigneur, tu sais ce que tu fais. Je ne marche pas selon le cauchemar, le rêve et tout ça. C'est peut-être un message que tu m'envoies, mais que ce message ne me perturbe pas. Donne-moi de dormir, je m'en occuperai demain. On se réveille, on transpire. J'ai rêvé de ma mère qui est décédée à 5 ans, mais il n'y a pas de problème. Ça a été ta maman. Tu as eu des rapports avec. Elle t'a porté pendant 9 mois. Tu es né, elle t'a allaité, tout. Tu as grandi et tout ça, mais c'est normal que le souvenir revienne. Vous commencez à être, oh, un esprit de moi, vous l'avez vu où? Non, non. Et après ça, il continue. Après avoir rencontré même plus loin
Parce qu'ici, il y a aussi au verset 41, des démons sortaient de beaucoup de personnes en criant, en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais ils les menaçaient et ne leur permettaient pas de parler parce qu'ils savaient qui était le Christ. Ils savaient. Et s'il y en a qui sont là, qui possèdent certaines personnes, ils doivent savoir qui est notre Jésus ici. Alors nous allons ordonner. Et puis, un autre aspect de notre ADN. Après l'action démoniaque, il y a quoi? Il y a la guérison physique. La guérison physique fait partie de notre ADN. Quand nous prions pour le malade, nous n'imitons pas telle ou telle autre assemblée. Quand nous prions pour le malade, nous ne le faisons pas parce que les apôtres l'ont fait. Oui, ils l'ont fait parce qu'ils avaient le même ADN que nous. Nous le faisons parce que ça fait partie de notre patrimoine. Ça fait partie de notre héritage spirituel. Ça fait partie de notre ADN. Si vous êtes malade ce soir, nous prierons pour vous. Parce que cela fait partie de notre ADN. Ensuite, le renouvellement. Je n'ai pas beaucoup de temps fait. Je n'ai plus beaucoup de temps. Le renouvellement. Le Seigneur s'est retiré après tout ça, dans le désert. Vous pensez qu'il est allé jouer au Scrabble avec le Père? Non. Dans le désert, il est allé faire quoi?
Prier.
Vous voyez? La prière, le renouvellement spirituel, la retraite, tout cela fait partie de notre ADN. C'est pourquoi personnellement, la plupart des pasteurs peuvent le témoigner. À chaque fois qu'un pasteur ou un des responsables me dit, pasteur, je me retire pour la retraite, je rends grâce à Dieu. Je dis, oui, tu peux aller, parce que ça fait partie de notre ADN. Il s'est retiré pour se renouveler spirituellement. Et enfin, il a prêché, nous avons dit, il prêchait dans les synagogues. Prêcher la parole de Dieu, témoigner de Jésus, fait partie de notre ADN. Si tu connais des gens qui sont là, qui ne connaissent pas le Seigneur, n'attendez pas toujours que le pasteur passe par là, ou l'ancien, ou le diacre. C'est dans ton ADN de lui parler du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit, allez dans le monde entier. Pourquoi? Eh bien, parce que tant que sa signature est avec nous, tout lieu, même en Arabie Saoudite, c'est notre terre. Si aujourd'hui nous ne pouvons pas y aller, il y a une chose, quand il reviendra, la Bible nous dit tout œil, même ceux qui seront là-bas, partout, en Irak, à Kamba. À Rome, partout. Même ici. Notre mandat n'est pas lié à une contrée. C'est dans notre ADN. C'est que vous êtes là, que vous soyez ici à Kinshasa, que vous alliez à Kisangani, vous êtes toujours ce que vous êtes. Que vous alliez à Badolité, vous êtes toujours ce que vous êtes. Vous pensez que la couleur de vos cheveux va changer en allant à Lubumbashi? Vous êtes toujours ce que vous êtes. C'est votre ADN qui a fait que vous ayez le cheveu que vous avez ou que vous n'en ayez pas du tout, mais enfin. C'est aussi dans les gènes, non? Ouais. Eh bien, c'est la même chose. Où que nous soyons, nous devons prêcher. Et parce que nous avons oublié que tout cela faisait partie de notre ADN, eh bien, nous avons démissionné dans beaucoup de domaines. Et résultat, eh bien, nous sommes de plus en plus frustrés. Résultat, nous sommes de plus en plus stressés. Résultat, nous tournons en rond. Nous ne sommes pas heureux. Venir à l'église, c'est comme toute une corvée. C'est pénible, bon, enfin on y va quand même, et tout ça. Mais lorsqu'on vit selon la nature, la caractéristique de notre ADN, eh bien, nous pourrions alors rejoindre Paul dans ce qu'il dit, réjouissez-vous toujours. Même lorsque les larmes sont là, on sait, les larmes sont là, après les larmes, je sais que mon Sauveur est vivant. Alléluia. Nous allons nous arrêter là et passer du temps dans la prière. Je voudrais, à l'occasion de cette dernière soirée, nous avons vu, c'est dans notre ADN, de rencontrer des difficultés. Inclinons nos têtes dans la prière. Je vais commencer à citer des cas, et ensuite nous prierons. Nous avons vu, c'est dans notre ADN d'être tenté. Tu es peut-être là, tu résistes difficilement à la tentation. Aussitôt que la tentation se pointe, te voilà en train de mordre la poussière. Si tel est ton cas, et tu aimerais ce soir que celui qui a affronté la tentation et qui l'a vaincu puisse t'assister, Je te demanderai de te lever là où tu es. Et nous allons prier pour toi, alléluia. Afin que le Seigneur désormais te donne la force. Merci. Merci pour ceux qui s'élèvent. Merci. Si c'est dans notre ADN de rencontrer la tentation, mais c'est aussi dans notre ADN de vaincre la tentation. Alors, nous allons crier. Nous allons demander au Seigneur de donner la victoire à tous ceux qui se sont levés, afin que le Seigneur les assiste. Alléluia. Nous restons debout. Nous avons dit que c'est aussi dans notre ADN de rencontrer l'opposition, de connaître la persécution, de passer par le désert, quel qu'il soit, le désert matériel, le désert financier, le désert affectif. Cela fait partie aussi de notre ADN. C'est peut-être ton cas ce soir. Tu es confronté à toutes sortes de difficultés. Et tu aimerais que celui qui a vaincu les hommes, ou du moins la persécution, la tribulation, qui est allé jusqu'au bout, que celui-là vous assiste, alors vous pouvez vous mettre debout. Vous qui êtes, qui passez par tout ce moment difficile, dans votre travail, entouré de gens qui cherchent par tous les moyens à vous faire partir de votre travail, qui veulent tout faire pour que vous ne connaissiez pas de promotion, eh bien vous pouvez vous mettre debout. C'est dans notre ADN, mes amis, de rencontrer des besoins physiques. Le Seigneur a prié pour les malades, en l'occurrence la belle-mère de Pierre. Nous les avons vus. Elle a été débarrassée de sa maladie. Elle s'est relevée. Elle s'est même mise à servir le Seigneur. Jésus a le pouvoir de détruire tout germe de maladie. Si ce soir, tu crois que c'est dans notre ADN de prier pour le malade, eh bien lève-toi là où tu es et nous allons prier afin que Dieu te visite dans cette maladie. Merci. Merci pour les personnes qui se lèvent. Tu es peut-être agité par des esprits. Quelquefois, tu te retrouves avec une double personnalité. Tu fais des gestes que tu ne contrôles pas. Et tu n'es même pas conscient que tu l'as fait. Tu mènes une vie abominable. Tu te dis, mais ce n'est pas moi qui fais ça. Il doit y avoir quelque chose en moi qui me pousse à le faire. Tu es peut-être, mon ami, manipulé par des puissances des ténèbres. Tu es peut-être habité par ces esprits impurs. Et ce soir, tu aimerais que celui qui dit un mot et les démons s'en vont. Si tu veux que celui-là, aujourd'hui, puisse faire quelque chose, tu te lèves de là où tu es. Et nous allons prier, alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons tous lever nos mains. Et je vais demander à tous ceux qui sont restés assis de se mettre debout. Dieu seul a vu votre besoin, peu importe. Que nous soyons tous levés. Je voudrais que chacun commence à parler au Seigneur. À lui présenter son besoin en disant, Seigneur, je crois dans la guérison physique. Car à la croix, tu as été meurtri, tu as été blessé. Afin qu'au travers de ce meurtrissure, je puisse avoir la guérison. Eh bien, je reçois cette guérison dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de me soutenir, de me donner la force d'affronter la tentation, de me donner la force de marcher contre tous ceux qui me persécutent. Prions tous ensemble, alléluia. Oh, alléluia. Invoquons le sang de Jésus. Invoquons le sang de Jésus. Invoquons le sang de Jésus. Ô Jésus, ô Seigneur de gloire, tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons sentir ta présence. Nous voulons te voir sauver les perdus, délivrer les captifs. Nous voulons te voir. Te voir. À l'œuvre d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Yebarabaya kangaraba Congo. Dondo chika bayikenga chika bayatanda. Lori bamba yakeka chika bayatondo. Beba baba baba. Jésus de Nazareth, accomplis ton œuvre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus, que la force soit donnée aux faibles. Que la force soit donnée aux faibles. Dans le nom de Jésus. Gemba baba. Rondo toto chikaba yakenga. Gloria baba yakenga chikaba yakondo. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Que la guérison soit donnée. Que les portes s'ouvrent. Que la force soit donnée aux faibles. Que les captifs recouvrent la liberté. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, merci, Seigneur. Gardez un moment de silence. Nous sommes toujours devant le Seigneur, dans sa présence. Le Seigneur a ordonné aux esprits impurs. Le Seigneur a prononcé une parole et l'action démoniaque a été brisée. Le Seigneur a ordonné et les esprits impurs sont partis. Je voudrais maintenant demandez à tous ceux en qui Christ habite, tous ceux qui ont la signature de Dieu, tous ceux qui marchent avec le Seigneur, alors que nous allons maintenant prier pour lier toutes ces autorités démoniaques, pour briser l'action du diable dans certaines vies, pour commander aux esprits qui possèdent certains corps de partir, vous tous qui croyez, qui avez l'ADN du Seigneur, joignez-vous-nous à notre prière, afin qu'ensemble, nous lions, nous brisons, nous anéantissons l'action du diable. Alors, tous ensemble, si tu es concerné, alors que nous allons invoquer le nom du Seigneur, commence à l'invoquer. Nous allons maintenant prendre autorité sur le diable, sur les esprits impurs. Nous allons chasser, les ordonner. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous brisons, toi esprit d'immoralité, esprit d'immoralité, esprit d'occultisme, je te chasse au nom de Jésus, libère ce corps, libère cette femme, libère cet homme. Dans le nom de Jésus, 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 Yemba Abakon Koshika Bayakenda, Reba Bayaken Kashika Bayakondo, Roba Beba Yeka Chika Bangoro, Reba Bayaken Kashika Bakondo. Nous brisons, nous anéantissons. Jésus, tu n'as pas changé. Oh, brise les liens, brise les chaînes, que les captifs soient libérés, libérés de l'oppression démoniaque, libérés de l'action du diable, libérés des esprits impurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous prions, nous libérons la puissance de Jésus-Christ. Que le sang lave, que le sang purifie, que le sang de Jésus sanctifie, que le sang de Jésus... Que le sang de Jésus, que le sang de Jésus restaure. Gloria a Cristo, madre y a punto. Aleluya. Vaya un duro de tinta. Emba y punto, chica, vaya santa. Amba gloria a Cristo, maldita la chinda. No cabe a pinta chinda. Emba la coco, socorro batanda. Liber, Señor. Libère Jésus, libère, libère, libère Seigneur. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Éternel des armées. Gloria à ta Seigneur, nous voulons bénir ton saint nom. Merci, pour avoir été avec nous tout au long de ce séminaire. Tu nous as fait du bien par ta présence. Merci. Tu nous as enseigné, tu nous as parlé. Tu as agi, tu as ouvert le ciel au-dessus de nous, Seigneur. Tu as libéré les captifs. Tu as délivré tous ceux qui étaient sous l'emprise démoniaque. Tu as donné la force aux faibles, Seigneur. La guérison aux corps malades. Tu as renouvelé des vies. Et nous repartons, Seigneur, oh Dieu, avec quelque chose que nous avons reçu de ta part. Merci de nous aider à garder précieusement ce que nous avons reçu. Oh Dieu, merci pour le sceau que tu as posé sur nous. Nous sommes ta signature vivante. Merci pour cet ADN. Seigneur, pour ton esprit, pars avec nous. Raccompagne-nous sur le chemin du retour. Bénis les activités de demain. Seigneur, mais aussi le grand rendez-vous que nous avons avec toi le dimanche, dans ce lieu, dans ta maison. Seigneur, merci. Merci pour tout. Que ta grâce nous accompagne et que ton esprit nous garde fidèles à toi. Au nom de Jésus. Amen.